bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM. Aujourd'hui, nous allons parler d'étudier, de développer, de promouvoir la sécurité, la qualité et la gratuité du transport scolaire et plus globalement des transports éducatifs. Et pour aborder ces sujets, nous recevons l'association ANATEP. Ou ANATIP, on va demander comment ça se prononce, hein. Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public, représentée dans nos studios par Hubert Massot. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Donc Hubert, une vieille connaissance de la radio, hein. Voilà.
Pourquoi une vieille connaissance ? Une connaissance ?
C'est pas bien de dire vieille ?
Une ancienne, pas
voilà.
Vieille.
Ah, une ancienne voilà. Connaissance, d'accord, on rectifie alors. Voilà. Et donc il va se présenter juste après que j'ai présenté notre équipe de winners qui est avec moi aujourd'hui. Donc Hervé.
Oui, bonsoir.
Donc Hervé, tu vas conduire le bus aujourd'hui, là.
Bien sûr, j'ai le permis.
Impeccable.
Toute catégorie.
Et donc, à la technique, Luc, notre marsouin. Voilà, on a fait les présentations. Juste si vous voulez réagir sur cette émission, le Facebook de RVMFM, le téléphone 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Si vous avez des questions à poser à Hubert Massot, on transmettra. Alors Hubert, comment vas-tu?
Ça va. En ce moment, des journées un peu chargées, justement, à cause, pour les interventions dans le cadre de l'ANATEP dans les collèges.
Alors, j'ai dit ANATEP, ANATIP, tu le prononces comment?
ANATEP.
D'accord.
On ne le prononce pas, on le fait.
C'est très bien. Alors, ANATEP, c'est national, mais il y a aussi ADATEP, départemental. Donc tu fais partie de, tu es membre de quelle association? Des deux?
C'est la même. C'est-à-dire qu'il y a une association nationale depuis 1964 qui s'appelle l'ANATEP et qui s'est déclinée en quelque sorte en un réseau local au niveau régional, c'est l'ARPEL je crois, et au niveau départemental, c'est effectivement l'ADATEP, association départementale. Voilà. Donc effectivement, on a plus une action effectivement régionale, voire nationale même, que départementale. On le fait, quoi. C'est-à-dire qu'on ne, il n'y a pas de réunion des membres de l'association au niveau départemental, mais ça ne nous empêche pas de travailler.
Oui, j'ai vu qu'il n'y avait pas de référent dans l'Oise pour l'ANATEP. Par contre, toi, tu es membre de l'association, c'est ça, hein. Ton rôle, alors, ça consiste en quoi?
Alors, mon rôle, c'est tout simplement d'intervenir dans le cadre de l'action auprès des collèges pour faire des animations dans un maximum de collèges de l'Oise, de façon à sensibiliser les élèves de 6e à la sécurité dans les transports scolaires. En fait, bon, moi je suis ancien enseignant, hein, j'ai 67 ans, je suis ancien enseignant, et j'ai connu l'ANATEP par le fait que la MGEN, la MGEN c'est la Mutuelle de l'Éducation Nationale, a fait un appel à candidature pour justement compléter les équipes de l'ANATEP dans les départements, donc ils faisaient appel à des enseignants retraités, jeunes retraités. Comme c'était mon cas et que le deal me paraissait fort sympathique et bien et utile, j'ai donc adhéré à ce mouvement-là. Et donc j'interviens depuis 2015 maintenant dans les collèges du département. Donc mon rôle essentiel, je n'ai pas voulu m'investir dans l'aspect administratif, etc., mais plus dans l'action concrète auprès des élèves. C'était ça qui me paraissait l'essentiel. Voilà, exactement mon rôle.
En fait, l'ANATEP, c'est quoi exactement auprès des élèves? C'est la sécurisation des transports scolaires?
L'ANATEP, dans le sens général, hein, c'est tout ce qui concerne effectivement le développement de la citoyenneté, mais surtout la sécurité dans les transports scolaires. Bon, Ça se décline dans différents domaines, même d'ailleurs au niveau des écoles, des lycées. Ça m'est arrivé d'intervenir dans des lycées, même des lycées professionnels, ce qui n'est pas chose facile, vu le public qui est parfois un petit peu difficile, quoi. Mais j'interviens essentiellement, notre action, c'est essentiellement auprès des collèges. Alors, pour expliquer un peu ce qui se passe, en fait, les conseils régionaux, depuis 2017, depuis la loi Nautré, ce qu'on appelle la loi Nautré, répartition des tâches des uns et des autres, avant, les transports scolaires pour les collèges étaient à la charge des départements. Et donc, j'intervenais, moi, l'ANATEP intervenait en liaison avec les départements. Et puis, depuis 2017, c'est en liaison avec les régions. Alors, les régions avaient en charge la gestion des transports scolaires pour les collèges et les lycées, mais surtout, essentiellement là, pour les collèges. Et s'est aperçu, les statistiques nationales, qu'il y avait une centaine d'accidents par an.
C'est énorme.
En France, hein.
En France.
C'est déjà pas mal.
Mais
quand même.
Il y avait une moyenne de 7 à 8 décès, enfants qui mouraient dans des accidents liés au transport scolaire. Donc il fallait probablement faire quelque chose. Et le conseil régional a donc demandé à l'ANATEP de prendre en charge une sensibilisation des élèves aux éléments de sécurité. Et donc, eh bien, j'interviens dans ce cadre-là. Oui.
Au départ, l'ANATEP, c'est une association, donc
oui.
Elle a des adhérents. Comment les gens adhèrent? Et puis, quels sont ses moyens de fonctionnement?
Alors, elle a...
Avant de rentrer dans le détail...
Oui, c'est une association nationale qui a des subventions, effectivement, mais qui fonctionne aussi par rapport à certaines opérations... qu'elle se fait financer, comme l'association RVM. Ouais, c'est un peu le même système. C'est souvent le cas pour la plupart des associations. Et donc, il y a des adhérents, c'est-à-dire que... Alors, il y en a... Enfin, peu de gens connaissent l'ANATEP. Pour savoir tout ce qu'il en est, il suffit d'aller sur le site de l'ANATEP, qui est vraiment très simple comme adresse. C'est ANATEP, alors en minuscule, anatep.fr. On ne peut pas faire beaucoup plus loin. ANATEP, hein, c'est ANATEP. Okay.
Mais c'est les départements ou les régions qui financent vos actions, du coup, là?
Là, par exemple, pour l'intervention dans les collèges, c'est financé par la région, effectivement. Avant, c'était pour les collèges, c'était financé par le département. Il y a effectivement un certain financement à prévoir. Alors franchement, encore une fois, j'essaye au maximum maintenant, quand j'interviens au niveau d'association, de ne pas trop me mêler sciemment de tout ce qui est administratif, oui, financier et autres. Moi, il y a des actions à faire, je fais les actions surtout.
J'ai une question quand même de principe. Donc c'est les collèges qui te demandent de venir, ou est-ce que c'est les départements ou les régions? Ou alors, c'est le bon vouloir de chacun?
Alors, il y a un appel d'offres, généralement, si je puis dire, au mois de juin, auprès des collèges, de tous les collèges. Alors, mettons pour l'Oise. Je prends l'exemple de l'Oise, mais c'est valable dans toutes les Hauts-de-France, et c'est certainement valable ailleurs en France aussi. Les régions, en charge donc de la gestion des transports scolaires pour les collèges, fait un appel auprès des collèges. Les collèges ont un peu plus d'un mois pour répondre si ça les intéresse ou pas.
C'est pas systématique. C'est pas obligatoire, donc.
Non, c'est pas obligatoire. La preuve, je suis intervenu, là, il y a quelques jours, sur Crépy. Et sur Crépy, je suis pas intervenu sur le collège La Fontaine, mais sur le collège...
Gérard de Nerval,
voilà. J'avais trouvé
Merci, Hervé.
Voilà, sur le collège Gérard de Nerval, parce que, apparemment, le collège La Fontaine n'avait pas demandé une intervention dans ce sens-là.
Ça paraît quand même un peu bizarre que ça ne soit pas national, que ça ne soit pas obligatoire.
Ça n'est pas obligatoire.
Une formation pour les élèves. Parce qu'il y a quand même, je lisais, il y a quand même un tiers des élèves en France qui prennent le car.
Oui, ce qui représente quasiment 4 millions d'élèves.
Donc quand même, c'est...
Enfin, le quart, les 4 millions d'élèves, un tiers, ça correspond au car, mais aussi au bus, au métro, etc. Hein,
attention, parce qu'il y en a un tiers qui prennent le quart, et il y en a un quart qui prennent le tiers, alors. Alors, pas suivre.
Ah là 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 là. Alors, prendre zéro, là.
Il faudrait reprendre un peu, parce que là, j'ai pas bien suivi.
Ouais. Là, comme j'avais dit, je me dégage de tout ce qui est chiffré. Donc, je ne sais pas trop. Non, il y a effectivement, j'admire le calembour.
Il y en a un tiers qui prennent les transports scolaires.
Un tiers qui prennent les transports communs scolaires. Ouais. Mais cela, alors je ne pourrais pas vous dire, franchement, je n'ai pas en tête, quelle est la partie car, quelle est la partie bus, quelle est la partie métro, tramway, etc.
Ça paraît quand même bizarre que ça ne soit pas obligatoire, vu le nombre d'accidents qu'il y a et choses comme ça, qu'il n'y ait pas de formation obligatoire auprès de tous les directeurs de collège, par exemple, les chefs d'établissement.
Oui, mais ça n'est pas obligatoire, hélas. Peut-être qu'un jour, ça le sera, mais pour l'instant, non. À la limite, je dirais que d'un certain côté, je dirais presque que ça nous arrange dans ce sens. Non, mais sérieusement, dans ce sens que, par exemple, sur le département de l'Oise, on est à 3 à intervenir.
Ah oui.
À 3 à intervenir, donc on se répartit, on a chacun un tiers du département, donc les collèges, un tiers du département. Moi, j'en ai là, cette année, 19. C'est assez rude, ça représente environ 2600 élèves, enfin un peu plus de 2600 élèves. Il faut le faire, quoi. Ah, et ouais. C'est vrai qu'il y aurait tous les collèges à 3, ce serait assez difficile. Alors s'il y a je fais un appel au peuple, notamment s'il y a des enseignants à la retraite hein, qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire et qui veulent faire une bonne action, eh ben, qu'ils adhèrent à la NATEP et viennent rejoindre notre équipe. On en a besoin.
Donc, ça demande une formation importante. Pour toi, ça t'a demandé une formation importante?
Non.
Comment ça fonctionne?
Non. On a... alors, au départ, donc en 2015, on a eu une petite formation d'un ou deux jours pour nous donner, nous montrer les outils, ce qu'il fallait aborder, etc. On a même été amené à faire des essais sous contrôle des anciens, si je puis dire, hein, pour voir si ce que l'on faisait était bien, si on se débrouillait bien, etc. On a tous les ans, là je crois que c'est le 25 octobre d'ailleurs, on a un séminaire. Alors, il y a un séminaire, une assemblée générale en France qui, cette année, s'est déroulée du côté de Pau, mais qui, sinon, là, pour la région nord de la France, se situera dans le nord de la France, un petit village, quoi, hein, et dans lequel la NATEP, alors le truc central, réalise, parce qu'il y a une partie de l'équipe qui aussi réalise des supports pédagogiques, parce qu'il nous faut des supports pédagogiques, qui réalise des supports pédagogiques qui, à l'occasion de ces séminaires, nous montrent ce que c'est, comment ça fonctionne et autres. Bon, et puis après, ben, on apprend, j'irais presque aussi sur le tas. Et on voit un peu quels sont les besoins. On discute avec les chauffeurs de car, avec les écoles, enfin les collèges. On voit quels sont leurs problèmes, du genre essentiellement, par exemple, le port de la ceinture de sécurité, qui est difficile à faire passer auprès des élèves.
Oui. Alors, là, tu parles des collèges, mais tu n'interviens pas dans les écoles primaires ou dans les lycées, alors que dans les collèges?
Non, alors on est intervenu, comme je le disais tout à l'heure, dans certains lycées, notamment à Senlis, à Breuil-le-Vert, etc. Mais on fait essentiellement les collèges. Les écoles, ça se fait dans certains départements, là où ils ont des effectifs suffisants pour pouvoir assurer ce genre d'intervention. Mais ça se fait aussi dans les écoles. Et ça devrait même se faire plus que ça, si je puis dire, dans ce sens que, généralement, nous, on le fait auprès des classes de 6e. Le principe étant que, les élèves étaient avant à l'école, donc aller à l'école à pied, en vélo, en voiture, mais pas en car. Mais il y en a qui m'ont fait remarquer, des élèves, et c'est là aussi qu'on apprend au fur et à mesure, mais oui, mais nous, on vient en car. Enfin, on allait à l'école en car. Et oui, il y a les RPI. Hein, les RPI, ce sont des regroupements pédagogiques intercommunaux, c'est-à-dire plusieurs communes, petites communes, qui ne peuvent pas avoir, qui ont de trop peu d'effectifs pour avoir une école complète. Et donc, ils ont, mettons, l'une a le CP, CE1, l'autre a CE2, l'autre le CM1, CM2, bon, voilà.
Même la maternelle.
Et maternelle aussi. Donc, pour ça, il est nécessaire de prendre le car, parce que quand on habite un village, qu'on arrive, mettons, au CM2, ah, c'est pas le même village, l'école est ailleurs. Et donc, on prend le car.
Oui, là, il y a Cuvernion, Thurie, c'est RPI, ça.
Ouais. Et ça, par contre, cette structure-là, pour l'instant, n'est pas encore véritablement prise en charge de manière systématique. Mais il faut dire aussi que les interlocuteurs pour la mise en place de ça, c'est beaucoup plus dispersé. Parce que quand on fait une intervention, je vais peut-être vous décrire un petit peu comment se passe une intervention dans les collèges, mais vous verrez, c'est la même chose, ça peut être la même chose partout. L'intervention dure 55 minutes, c'est une heure de cours de collège, hein, classique. Généralement, enfin, ce que l'on fait, même systématiquement, on fait une partie théorique de 35 minutes, avec un support vidéo, un film. Je précise bien que c'est un film, chaque fois aux élèves, parce qu'on voit des scènes d'accidents. Et donc, j'explique bien que ce sont, comme dans un film au cinéma ou à la télé, ce sont des montages vidéo, et les collégiens, ce sont des acteurs, des comédiens. Hein. On passe ce film-là, on échange en même temps, on discute. Le film est d'ailleurs très bien fait, il est fait par l'ANATEP, il est vraiment très bien fait. Et ensuite, on a une partie évacuation d'un car, pendant une vingtaine de minutes. Donc, pour faire l'évacuation d'un car, ben, le problème, c'est qu'il faut pouvoir avoir un car. Et là, donc, il faut que la structure qui commande l'opération, si je puis dire, puisse s'arranger avec un transporteur, avec le transporteur du coin, pour dire, ah, il faudra mettre un car à disposition de tel endroit pour pouvoir faire l'évacuation.
Oui. Ouais, donc c'est pas évident, oui.
Non, donc on peut difficilement le faire pour ça. On a aussi le même problème, si je puis dire, sur le long terme, ça se verra peut-être, hein, concernant tous ceux qui se déplacent en bus, alors en bus municipaux. On voit ça, mettons, à Senlis, probablement ici à Crépy. Ouais. Hein, et dans plein de villes un petit peu importantes, il y a des bus qui passent. Bon, là, les conditions, même chose, ne sont pas les mêmes. Pour faire des exercices d'évacuation, c'est difficile. Donc, tout ça, c'est pour l'instant pas pris en charge. On s'est limité, on essaie de bien le faire, mais on s'est limité au collège. Et parce que le collège, c'est dans une structure assez bien définie, et donc on peut travailler dans des conditions relativement correctes.
Et puis on considère qu'arriver en sixième, de la sixième à la troisième, c'est à partir de ce moment-là que les enfants deviennent autonomes.
Voilà,
par rapport aux primaires, où souvent c'est les parents qui les emmènent à l'école.
Voilà.
Et, tout ça.
Et c'est à partir du collège qu'ils commencent véritablement à prendre le car, là on en est certain. Et c'est en sixième, c'est-à-dire que pour pouvoir toucher tous les élèves du collège, eh ben, si on les prend à la sixième, on est certain qu'au bout d'un certain temps, un certain nombre d'années, tous les élèves auront eu cette sensibilisation. C'est pour ça qu'on le fait essentiellement pour les classes de 6e. Et de toute façon, matériellement, même chose, on ne pourrait pas le faire sur toutes les classes. Quoi.
Alors, en école primaire, moi, je connais pas mal de RPI où il y a des accompagnateurs dans le bus. Donc, ça fait que les enfants sont quand même sensibilisés à la sécurité parce qu'il y a quelqu'un qui les accompagne pour les mettre les ceintures, pour respecter le transport et tout ça.
Mais ça n'est pas le cas partout, et notamment...
Oui, c'est pas tous les RPI, d'accord.
Ouais. Oui. Puis dans les collèges, non.
Oui, il n'y en a
non,
plus. Oui,
il n'y en a plus. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est le chauffeur, c'est ce que je leur explique. C'est-à-dire que le chauffeur lui-même ne peut pas faire la police dans le car. Ce n'est pas son rôle, déjà. Hein. Il s'occupe de son car, des autres voitures, de la signalétique, etc.
Oui. Il doit être concentré sur sa conduite, hein, bien
voilà.
sûr.
Voilà. Et il ne peut pas faire autre chose que ça. Je leur dis souvent, imaginez, le chauffeur est à son volant, il y a du chahut derrière... Il regarde dans le rétroviseur, il dit « Hey, vous calmez un petit peu ». Bon. Et puis après, ça ne marche pas. Donc, il se retourne la tête pour dire aux élèves de se calmer. Mais à ce moment-là, la voiture qui est juste devant pile et hop, c'est l'accident.
Dans le fossé.
Voilà. Donc,
voilà. Alors justement, tout à l'heure, vous signalez le responsable des transports, c'est quand même pas le directeur du collège, quoi. C'est pas c'est pas lui le référent pour ça. C'est plutôt le département ou la région.
Voilà. C'est-à-dire que, alors pour terminer ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un appel à candidature auprès des collèges qui est fait par la région. Donc les collèges répondent. À ce moment-là, la région envoie les demandes à l'ANATEP. L'ANATEP nationale, d'ailleurs, qui nous les retransmet en disant bon, voilà, mettons sur l'Oise, mais c'est valable pour n'importe quel département des Hauts-de-France, et même probablement partout en France. Là, par exemple, on est trois. Bon, vous répartissez, vous habitez là, là et là. On divise le nombre de demandes par trois, et chacun en fait un tiers. Alors, ça, nous, on s'occupera donc dans ce cas-là. De recontacter les collèges en disant « Bon, ok, vous êtes partant pour. Maintenant, quand est-ce que vous pouvez nous proposer une date ?» Enfin, moi, je sais que je leur demande même de choisir la date. Je l'impose pas moi-même. Ils choisissent la date. Le petit problème, quand même, c'est qu'il y a aussi le transporteur qui fournit le car. Or, les transporteurs ne veulent pas s'investir là-dedans avant le 1er octobre. Donc, on ne peut pas faire d'intervention avant le 1er octobre. Bon, à la limite, on peut trouver ça normal. À la rentrée scolaire, ils ont plein d'autres choses à gérer. Mais les élèves n'ont pas cette sensibilisation dès les premiers temps. Bon. Et ça dure généralement jusqu'à novembre, décembre. Là, moi, j'ai jusqu'à, en gros, début novembre pour terminer mes 19 collèges. Donc justement, une fois qu'on a mis en place les jours et les heures, parce que oui, de quelle heure à quelle heure, sachant qu'une intervention dure donc 55 minutes et concerne deux classes de sixième en même temps. Ah. Pourquoi deux classes? Ben, tout bêtement parce que le quart, généralement, fait 55 places.
Oui.
Donc si on met une classe, ça fait trop peu. Hein, on met deux classes d'un seul coup. Et là, le quart est plein. Les conditions pour faire l'exercice d'évacuation sont maximum. Hein. On ne peut pas faire, mieux. Et donc, en fonction du nombre de classes de sixième, bah, il y a tant de créneaux. Alors, généralement, ça tient sur une matinée, mais pas forcément. Des fois, c'est un peu moins. Je crois que j'interviens lundi au Plessis-Belleville. Il y a une classe. Donc, oui, parce qu'on fait aussi bien, même si l'ANATEP a pour dénomination enseignement public, on intervient aussi sur les collèges privés. Oui. Bah, tout bêtement, parce que, et moi ça me paraît un petit peu normal, parce qu'un gamin accidenté, qu'il soit du public ou du privé, c'est oui. Quand même un gamin accidenté. Mmh. Hein. Donc, on intervient, et puis le conseil régional est tout à fait d'accord pour ça. Et donc, une fois qu'on a mis les horaires au point, on communique ça aux transporteurs en disant, voilà, il nous faut un quart de telle heure à telle heure, tel jour, dans tel collège. Mm-hmm. Après, des fois, il y a des petites modifications du genre, le transporteur lui-même se dit, ben oui, mais nous, on a un circuit de RPI, mettons, à faire aussi, de telle heure à telle heure, on ne peut pas, donc on doit décaler, etc. Bon, on arrange à partenaire à trois, ce système-là, une fois qu'il est posé, on le fait.
Et l'écart des transporteurs, en plus de ça, c'est pas obligatoirement des cars scolaires. C'est des cars qui servent pour autre chose aussi.
Oui.
Ils sont pas spécifiquement dédiés au transport scolaire. Donc le transporteur peut en avoir besoin pour autre chose.
Oui, c'est pour ça que effectivement, j'ai jamais regardé si tel ou tel truc. On pourrait le voir au petit écriteau maintenant obligatoire où il y a les deux petits gamins là. Oui, faut dire que c'est un transport scolaire. Franchement, je n'ai même pas fait attention. L'essentiel, c'est qu'on ait effectivement un quart à disposition. Alors, des fois, ça m'est arrivé aujourd'hui, on a plus d'élèves que la capacité du quart. Généralement, on le précise. Alors, normalement, le transporteur doit fournir, dans ce cas-là, un quart de 63 places.
Bon. Ah oui.
Enfin, bref. Et de façon à pouvoir contenir les deux classes en question. Des fois, on n'a qu'une seule classe. Bon, déjà, s'il y a un nombre impair de classes dans le collège, bah, il y a une séance où il n'y a qu'une classe. Mais il y a aussi des établissements où, par exemple, ils n'ont pas de salle suffisamment grande pour accueillir 55 gamins pour faire la visio. Ouais. Bon, dans ce cas-là, bah, on s'adapte. Dans tous les cas de figure, on s'adapte. Sachant que si, quand on fait l'exercice d'évacuation et qu'on n'a qu'une classe, évidemment, on regroupe tout dans la moitié du quart, de façon à... La moitié du quart, ça fait combien ?
La moitié de 55, ça va être dur, hein. Ah, non, ça fait 27,5, donc...
j'ai dit la moitié du quart.
Ah, la moitié du quart, ça fait le huitième.
Voilà. Je renvoie la balle, c'est normal.
Voilà.
Ah, mais donc, on occupe la moitié du quart et on ne sort que par une des deux portes de façon à ce qu'il y ait un maximum de difficultés, quoi.
Alors, moi, je me disais, pourquoi pas inclure le chauffeur de bus dans la formation, dans la... Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un bus et puis d'avoir un chauffeur qui est là, qui puisse profiter un petit peu de ce que tu proposes.
Alors là, ça se fait parfois, mais là, ça ne dépend pas du tout de nous. Quand le chauffeur de car accepte de venir sur la partie vidéo, c'est bien. Mais on ne peut pas l'y obliger. Il est, par rapport à l'ANATEP, c'est le salarié d'une entreprise privée de transport. On ne peut pas l'obliger à quoi que ce soit. Et les interventions auprès du transporteur lui-même ne sont pas du tout du ressort de l'ANATEP. C'est vraiment le conseil régional qui gère ça, ce n'est pas nous. Hein, donc on ne peut pas se mêler de ça. C'est bien, hein, quand ils viennent, ça arrive. C'est assez rare quand même.
Oui.
Mais enfin...
Eh bien écoute, moi je propose c'est qu'on mette un petit morceau de musique, parce que Hubert a ramené de la musique, donc les auditeurs, on va découvrir le choix d'Hubert.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y a plus personne en ville, y a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Il y a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'instit du village.
toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page, on est les oubliés.
Vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est votre émission Le Bouche à Oreille qui reçoit aujourd'hui l'association ANATEP ou ADATEP. Voilà, on a bien expliqué les choses, hein, ouais. Nationales et départementales. Donc, pour réagir, le téléphone 03 44 59 30 30, le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com ou même le Facebook de RVMFM. On transmettra à Hubert Massot. Donc Hubert, ton choix musical. On a
oui,
écouté quoi?
Les oubliés de Gauvin Serne. Alors, j'aime bien parce que, évidemment, je suis très, très, très concerné, étant ancien enseignant, et j'ai aussi enseigné dans des coins complètement perdus. Mon premier poste devait être à Saint-Pierre-les-Bitry, donc vraiment un tout petit village. Et donc, je suis très sensible à ce qui est dit dans cette chanson. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. J'aime bien. Et puis, Gauvin Serne, j'avais vu, quand il était passé à la MJC, dans le cadre des Musivals,
La salle Marcel Crépy. Quantin, je crois, c'est ça
Oui, c'était...
Marcel Quentin, c'est celle qui est à côté, là. Elle s'appelle comment? Je ne sais plus.
Ah, c'était je crois que c'était bien la MJC, si je me souviens bien.
J'ai un doute, mais c'est pas grave.
Près de l'ancienne piscine. Je crois. Hein.
Bon, c'est la MJC. L'ancienne piscine, c'est la MJC.
Oui, c'est ça, c'est bien ce que je disais. Enfin, peut-être pas, mais enfin...
À côté du collège Gérard de Nerval.
Voilà, justement, juste en face. et donc, j'avais été le voir et j'avais fortement apprécié sa prestation.
Et nous aussi, on a apprécié sa prestation à la radio. Mais ça, c'est une petite plaisanterie entre nous, parce qu'on l'attend toujours. Donc voilà.
Ah, désolé, je ne savais pas.
Non, mais c'est pas grave, c'est juste une petite anecdote comme ça. Donc... On a parlé de sécurité, on a parlé de plein de choses, mais il y a aussi le mot gratuité dans votre ANATEP. On n'en a pas encore évoqué le sujet.
Oui, oui. Ben, y a plusieurs choses qui sont recherchées, et des dossiers qui sont suivis par l'ANATEP nationale. Notamment, suite au mois de septembre, il y a eu un accident à Laval, à côté de Laval. Et les enfants, ils étaient en bus, et les enfants, dans un bus, il y a des places debout. Et donc, il a été demandé, il y a une action qui est menée par l'ANATEP pour justement essayer de suivre ce dossier-là, voir ce qu'il y a à faire, etc. Et donc, il y a plusieurs choses qui sont menées en parallèle. Là, je parlais d'une action que l'on fait là sur le département. Mais il y a effectivement d'autres choses, et notamment par rapport à la gratuité. Bon, la gratuité, il faut savoir que depuis septembre 2020, la région fait de telle sorte que les transports scolaires pour les collèges et les lycées sont gratuits. Avant, ils étaient payants, maintenant, ils sont gratuits. Donc ça, c'est du bien pour... Enfin, l'ANATEP apprécie beaucoup la chose, parce qu'au moins... ça, c'est fait. Maintenant, il faut que ça puisse se faire partout. Il y a, encore une fois, il y a plein d'actions comme ça sur tel ou tel sujet qui sont menées par l'ANATEP d'un côté et de l'autre. Et donc, gratuité, j'espère que ce sera généralisé à l'ensemble de la France. Ce serait quand même une très bonne chose. Sauf que dans ce cas-là, évidemment, c'est maintenant à la charge des régions. Donc, il faut que les régions se disent, bon, on met la main dans la poche et on sort du porte-monnaie, de quoi payer tout ça. Parce qu'il faut payer donc les transporteurs.
Oui, bien sûr.
Mais c'est pas donné. Hein. Oui. Voilà.
Oui. Et donc, les parents d'élèves vous soutiennent aussi. Alors, comment ça se passe, les relations avec les associations de parents d'élèves? Puisque je pense qu'ils doivent être aussi mobilisés sur la sécurité, sur la gratuité, sur plein de choses comme ça, quoi.
Oui. Alors, c'est très variable. Je crois que c'est à Saint-Leu-d'Esran, où justement c'est très suivi, cette action-là, par les associations de parents d'élèves, qui même d'ailleurs, je me souviens, cette année, je n'interviens plus sur Saint-Leu-d'Esran, mais j'ai fait pendant 4-5 ans précédemment, et les parents d'élèves étaient présents, suivaient d'ailleurs les formations, et distribuaient à la fin de l'évacuation du CAR, distribuaient des gilets fluorescents aux élèves, à chaque élève. Chaque élève avait droit à un gilet. Alors, acheter en nombre, ça revient pas très cher pour les associations. Ça doit être de l'or, je crois, de 2 ou 3 euros. C'est vraiment très peu cher. Mais au moins, les élèves repartaient avec un gilet fluorescent. Ce qui est quand même sacrément intéressant, parce que nous, avant, on le faisait, mais je crois qu'il y a des problèmes budgétaires pour l'ANATEP qui fait que maintenant, on ne le fait plus, parce que c'est quand même pas... Maintenant, on distribue des petites réglettes. Voilà, des trucs comme ça.
On va donner une à Hervé, voilà.
Voilà, alors merci. C'est...
pardon, je respect, vois. D'accord.
Voilà, et donc... Des gilets étaient donnés ça, comme ça. Alors, on prend aussi, enfin, on éduque aussi les enfants, on les sensibilise aussi au trajet entre la maison et le car, ouais. Et l'arrêt de car, hein, aussi bien à l'aller qu'au retour. C'est-à-dire que, on leur explique que, bon, pour l'instant, début d'automne, quand ils vont au collège, quand ils reviennent, il fait jour. Ouais. Par contre, d'ici le mois de décembre, janvier, février, il fera nuit. Et dans ce cas-là, il y a des précautions à prendre, justement, pour ne pas risquer de se faire renverser par une automobile, d'où le fait d'avoir quelque chose de phosphorescent, de fluorescent, ouais. De réfléchissant.
De réfléchissant, ouais.
Voilà, de façon à pouvoir être vu dans les phares des automobiles. Donc là, l'association de parents d'élèves participait véritablement à la formation. Je dois dire que dans les autres collèges, je n'ai pas vu cette intervention-là. C'est peut-être un peu dommage, mais bon. Est-ce que les parents des associations de parents d'élèves sont au courant Normalement, ils sont au courant de l'intervention, mais apparemment, ça ne va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de vraie connexion avec les associations.
Oui, il n'y a pas un travail en commun, quoi.
Non. Oh, il y a encore du travail à faire,
pour améliorer,
voilà.
Concrètement, comment ça se passe, une démonstration pour les gosses? Arriver devant le car, monter dans le car, s'asseoir dans le car, mettre sa ceinture, voilà. Se lever, descendre, qu'est-ce qu'on fait de son cartable?
Alors, tout ça. Effectivement. Alors, ils viennent donc à deux classes. Je leur donne les consignes, une partie des consignes avant de monter dans le car. C'est-à-dire, je leur dis déjà que le sac vaut mieux le tenir à la main plutôt que d'avoir dans le dos, parce qu'on peut très bien, dans ce cas, basculer et risquer de tomber, etc. Donc, on l'a à la main. On monte dans le car, on dit bonjour au chauffeur. c'est aussi ça, hein, l'éducation.
Il y a respect de la citoyenneté aussi.
Oui, voilà. Donc, effectivement, il faut donc dire bonjour au chauffeur. On va s'installer. Alors, généralement, j'en choisis quand même deux. C'est bon, voilà. Deux qui sont un petit peu costauds et grands. Parce que dans notre façon d'évacuer le car, on part du principe que l'ouverture automatique des portes est bloquée. C'est-à-dire, ne marche pas, soit le chauffeur a un malaise, soit il y a une panne électrique. Donc, les portes sont complètement bloquées. Donc, ils apprennent. Donc, c'est une première chose qu'ils doivent faire, c'est-à-dire apprendre à ce qu'il y en ait un au moins qui est situé juste à côté des portes, qui tourne une mallette ou une manette ou alors appuie sur un bouton pour débloquer la porte. C'est un système automatique. C'est-à-dire, je leur dis, ça fait... Et après, quand le psh est terminé, la porte est débloquée, mais pas ouverte. Il faut la pousser. Voilà. Mais donc, je mets ces deux élèves-là. Les autres montent, ils s'installent, ils mettent leur ceinture, ils mettent leur sac. Et ça, c'est pas évident, ouais, surtout selon la structure des cars. Hein. Ils mettent leur sac de façon à ce que ça ne les gêne pas du tout. En cas d'évacuation, mais même en temps normal, hein, ça ne les gêne pas du tout. Alors, des fois, il y a des racks, mais pas dans tous les cas, loin de là. Des racks au-dessus, enfin, pour pouvoir mettre les sacs. Mais des fois, en plus, les collégiens, maintenant, ils ont des sacs énormes. Donc, ça ne rentre pas dans les racks en question. Et il n'y a pas, comme dans les avions, un petit truc où on met le sac pour savoir si ça peut être un bagage cabine ou pas. Donc, dans ce cas-là, si c'est trop grand, ou si des fois c'est trop lourd, parce qu'il faut le lever quand même, le sac. Hein, pour des petits, c'est pas évident. Mais dans ce cas-là, ils mettent le sac sous leur siège ou un petit peu devant. Enfin, des fois, ça pose problème parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour caler les sacs. Donc, voilà. Mais il faut que les pieds soient totalement libres pour circuler. Ils mettent bien évidemment leur ceinture de sécurité. Ça me donne le moment possible pour pouvoir leur monter en vrai ce qu'ils montraient dans la vidéo, c'est-à-dire le fait qu'il y a des petits marteaux entre les carreaux pour pouvoir casser les vitres. Je leur précise qu'on ne casse pas les vitres là, parce que sinon le transporteur ne serait pas content. Hein. Mais donc je leur montre un petit peu où est-ce qu'ils sont. Je leur montre où est la trousse de secours, où est l'extincteur, que c'est normalement le chauffeur uniquement qui utilise l'extincteur. Enfin, différents éléments comme ça. Et après, je leur dis, bon... comment vous allez sortir? Si vous sortez n'importe comment, vous marcherez les uns sur les autres, c'est le premier sorti, chacun pour sa pomme, etc. Mais dans ce cas-là, on se marche dessus, on se bouscule, on tombe, et c'est le meilleur moyen qu'il y ait plein de victimes. Donc on ne fait pas comme ça. Alors le principe, c'est en fait, je leur explique, ça va être difficile à dire, point de vue radio, parce que là, sans le voir, c'est difficile. En fait, je dis que tous les élèves qui sont assis près de l'allée centrale sortent en premier, en commençant à partir de ceux qui sont près de la porte, pour chaque moitié de quart, c'est-à-dire que la première moitié de quart sort devant, la deuxième moitié derrière. Même ceux qui sont au fond de la première moitié, il n'est pas question qu'ils sortent par l'autre porte, non, ils sortent par devant. Et donc ils sortent, ils doivent sortir l'un après l'autre, en poussant le pas, mais sans non plus dire après vous, etc. Non, on sort. À ce moment-là, quand ils sont sortis, en partant du début jusqu'à la fin, ceux qui sont sur les bords des fenêtres se mettent près de l'allée centrale, puisque les places sont libres, et ressortent à leur tour, mais en commençant cette fois-ci par le fond.
Il y a tout un protocole quand même.
Mais ça a été testé par l'ANATEP d'ailleurs. Des tas de configurations ont été testées et ça s'avère celle la plus efficace. Ouais. Et à ce moment-là, donc, les derniers sortent aussi. Celui qui a ouvert la porte se met près de en bas d'escalier, près de la porte, pour s'il y avait quelqu'un qui tombait ou quoi que ce soit, pouvoir le relever. Et ils se réunissent assez loin, disons au minimum une petite dizaine de mètres, du car, parce que si le car prenait feu, il ne faut pas qu'il soit juste à côté. Ouais. Et tout ça en moins de 30 secondes. Alors pourquoi 30 secondes? Simplement parce que je leur explique que quand un car prend feu, entre parenthèses, j'étais hier à Noyon, et quelques jours avant, il y avait eu un car qui avait pris feu près de Noyon, un car scolaire. Ouais. Donc j'étais quand même un petit peu sensibilisé. Donc je leur dis, quand un car prend feu, vous ne mourrez pas grillé, mais asphyxié. Il y a des vapeurs toxiques qui sont émises, qui envahissent tout l'habitacle du car, et ce, en un peu plus de 30 secondes quand même. En fait, je ne leur dis pas, mais il suffirait qu'il y ait un élève qui soit avec des béquilles, qui doit donc sortir en premier. Ça peut ralentir et autres, donc on prend une marge de manœuvre et on dit 30 secondes. Et donc, ils doivent sortir en moins de 30 secondes. Mmh. Et ils le font. Ils le font. Ils arrivent à sortir en moins de 30 secondes. Pas beaucoup. C'est généralement entre 27 et 30 secondes, mais ils arrivent à sortir en moins de 30 secondes. Donc, à partir de là, ils peuvent avoir évacué le car sans aucun problème.
Et le chauffeur, qu'est-ce qu'il devient alors, le pauvre? Personne ne s'occupe de lui?
Non. Alors, le chauffeur, on n'est pas en charge d'intervenir auprès du chauffeur. Le chauffeur, comme dans le bateau,
c'est le capitaine,
c'est le dernier qui s'en va, normalement. Lui, il est censé se prendre en charge quand même directement. On n'intervient pas.
Il est censé aussi avoir de la formation pour son car.
Oui.
Par son employeur. Puisque...
Oui. Voilà. Oui. Donc, on n'a pas à former les chauffeurs. Non, on a déjà assez de boulot avec les élèves.
Là, les gamins, il faut qu'ils laissent leur sac.
Ah oui, alors oui.
Ça, c'est important parce qu'il y en a certains qui
prennent
mon cartable. Oui, je l'ai oublié, je retourne le chercher.
Oui, je n'ai pas dit ça alors que c'est essentiel. C'est essentiel. Effectivement. Ouais. C'est-à-dire que quand ils sortent, je leur précise bien qu'ils le sortent sans rien. C'est-à-dire que leur sac, ils le laissent en place. S'ils ont un manteau, le manteau, s'ils l'ont sur eux, ils le gardent. S'il c'est à côté, ils le laissent. Ah ouais. Et j'insiste aussi sur un autre truc. C'est que je leur dis, votre téléphone portable. Téléphone portable au fond de mon sac. Vous avez le choix entre deux choses. Soit vous sortez, vous laissez votre téléphone portable, le téléphone crame, est détruit, mais il y a une clause dans votre assurance qui fait que votre téléphone sera remboursé. Autre solution, on farfouille dans son sac pour essayer de trouver son téléphone, on ne le trouve pas, et on meurt. Dans ce cas-là, je leur dis, regardez ou demandez à vos parents si dans le contrat d'assurance, il est prévu de vous redonner la vie. Il y a peut-être peu de chance. Et dans ce cas-là, non seulement vous perdez la vie, mais votre téléphone, il ne sert plus à rien.
Ah oui, ça c'est sûr. Ouais.
Donc voilà, ils doivent sortir effectivement complètement sans sac. Alors après, généralement, une fois qu'ils ont fait ça, je les félicite. Et je leur donne un petit cadeau, genre la petite réglette, etc., pour les récompenser.
Le téléphone, c'est un problème plus important, parce que dès qu'ils sortent du collège, ils ont le téléphone à l'oreille, et ils ne font pas attention à ce qu'ils font.
Ouais.
Donc ça fait partie aussi de des mises en garde, non ?
Il y a pire que ça, c'est, si les auditeurs veulent regarder, Anastasie. C'est une petite vidéo qui dure, je crois, 3-4 minutes, qui a été faite par la police suisse et qui est très, très, très bien faite, très humoristique, quoique, dans laquelle un présentateur explique qu'il va montrer un tour de magie. Et le tour de magie, c'est en fait un ado qui a son écouteur sur les oreilles et qui se balade et qui dit « Attention !» On va le faire disparaître. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui arrive à toute allure et qui enlève l'ado en question. Ouais. Et à la fin, on voit que celui qui présente le tour de magie, le présentateur, le plan s'élargit et on voit pompe funèbre au-dessus.
Oui.
Voilà.
Oui. C'est un humour. Oui.
Oui, c'est.
Enfin, le message, il passe bien, quoi.
Oui. Bon, je ne le montre pas aux élèves au 6e de collège, mais dans les lycées, si, ça m'est arrivé effectivement de montrer cette vidéo-là. Ça rejoint le problème du téléphone, c'est-à-dire que, évidemment, bon, là, c'est plus dans le car. C'est quand ils sont à pied, mais quand ils se baladent avec leur téléphone et qu'ils ne regardent pas.
Au moment de monter dans le car. On traverse, on ne fait pas attention, on vient juste de sortir, c'est ça.
Alors, c'est une des choses d'ailleurs que l'on aborde, mais là, au niveau de la vidéo, puisque ce n'est pas l'exercice d'évacuation directement, c'est qu'en fait, le maximum de victimes ne sont pas des victimes dans le car, au cours d'un accident du car lui-même. Non. La plupart des victimes, c'est tout autour du car. Combien de fois, alors, je leur explique aussi, lors de la présentation vidéo, qu'ils doivent faire attention s'ils ne sont pas autour du car dans un angle mort. Parce que dans ce cas-là, le chauffeur du car peut très bien manœuvrer, ne pas voir l'enfant et le renverser. Et ça, on a beaucoup d'accidents de ce type-là. Autre chose aussi que je leur explique, quand ils arrivent pas loin de chez eux, ils reviennent le soir, ils sortent du car, ils voient de l'autre côté de la route leurs parents qui leur fait signe « Oh, on est là !» Et à ce moment-là, ils tracent, ils courent, ils ne regardent ni à droite ni à gauche, ils traversent la rue et c'est le meilleur moyen de se faire, hélas, renverser. Donc je leur explique bien que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien alors, il y en a qui disent « On regarde à gauche, à droite !» J'ai dit « Non, on attend que le car soit parti. Ouais. Quand le car est parti, on a toute visibilité. » Et à ce moment-là, s'il y a un passage pour piéton, on le prend, on regarde à gauche, à droite, et on peut traverser. Je leur explique même d'ailleurs, parce que ça, ils n'ont pas conscience du tout, que, mettons, il y a un car qui s'arrête, qui dépose les élèves, il y a un élève qui va pour traverser, il y a une voiture qui arrive. Si la voiture arrive et que le conducteur de la voiture voit l'élève, il va piler. Sauf que, alors, je leur explique qu'ils verront ça plus tard quand ils étudieront l'énergie cinétique, mais que sinon, il y a une règle assez simple, qui est assez facile à retenir, pour calculer le nombre de mètres que mettra la voiture pour s'arrêter. En fait, on prend la vitesse, mettons en ville 50 km/h. On retire le chiffre des unités, donc le 0, il reste le 5. On le multiplie par lui-même, 5 fois 5, 25. Il faut 25 mètres. Le car fait 13 mètres de long. Donc, si la voiture freine à ce moment-là, elle s'arrêtera 25 mètres plus tard, donc elle aura écrasé l'élève qui aura traversé. Et pire, s'il roule à 80 km, c'est 64 mètres. Alors, je dis que moi, généralement, quand je double un car comme ça qui est à l'arrêt, je ralentis à 30 km/h, donc ça me fait 9 mètres, donc j'ai le temps de réagir. Voilà.
Donc, il y a une éducation aussi pour les conducteurs, quoi. Voilà.
Oui. Alors, on pourrait aussi éduquer les parents, etc.
Je reviens juste sur le portable. Le portable, il peut être utile quand même pour prévenir les secours s'il y a un problème dans le car et tout ça. Donc, est-ce que les gamins sont initiés à ça, à appeler qui doivent appeler ou pas, si le chauffeur est à un malaise ou tout ça ? Est-ce que vous leur donnez...
Non, parce que justement, en plus, il y a de plus en plus de collèges. Là, aujourd'hui, j'étais à Mortefontaine, à l'Institut Saint-Dominique, et j'ai abordé le sujet, et on m'a dit, mais le portable est interdit ici.
Ah, voilà. Mmh.
Donc, pas de portable. Donc là, ils peuvent, de toute façon, ils peuvent rien faire. Donc, on les... j'essaye d'éviter, hélas, de leur donner... justification, prétexte pour avoir leur
portable. Le téléphone,
c'est déjà un tel problème en soi, le portable, que s'ils peuvent éviter de l'avoir, c'est quand même mieux.
Oui.
Non, mais le portable, normalement, il est interdit au collège, quoi. Mais à partir du moment où on sort du collège...
On peut l'avoir dans le cartable.
On peut l'avoir dans le cartage et puis le mettre en marche.
Oui,
donc
oui,
là, il n'y a pas de...
On peut.
Donc,
on peut.
Voilà.
Après, savoir si les enfants... sachant leur portable dans leur sac, si discrètement ils ne le prendront pas, etc.
Bon. Hubert, une question, je voulais savoir si vous avez participé à cette campagne ou pas. J'ai vu hier dans une émission qu'il existe maintenant des arrêts-minutes où les voitures peuvent s'arrêter et tu as un petit passage juste à côté où l'enfant descend du côté droit et il n'est pas du tout en contact avec la route, il est directement protégé. Il y a un marquage au sol et il y a une dame qui est là ou un monsieur qui les accompagne. Et donc, les parents déposent leurs enfants en toute sécurité. Et il existe aussi maintenant des rues piétonnes qui ne sont que réservées pour les entrées des écoles où il n'y a plus du tout de voiture. Est-ce que ça, vous participez à ce genre d'élaboration ou pas d'élaboration ?
Apparemment, bah, tant qu'on n'est pas sollicité, encore faut-il savoir où est-ce que ça se fait. Je crois qu'il y a beaucoup de communes, moi je sais au Plessis-Belleville d'ailleurs, c'était un sujet de réflexion qu'on avait à un certain moment, où on se demandait comment faire pour protéger les enfants. Bon, au Plessis, il y a la police municipale qui veille au grain, et il y a des personnes habilitées à faire traverser les trottoirs, etc. Mais c'est vrai qu'il y a partout... c'est un sujet de préoccupation partout pour toutes les municipalités. Et généralement, il y a on essaie de trouver des solutions. Le problème, c'est que les solutions, elles dépendent de la structure, de l'infrastructure, quoi. Hein. Avoir un chemin pour aller jusqu'à l'école, on y avait pensé au Plessis, il y a un bout de temps. Maintenant, je sais pas si c'est encore d'actualité. Effectivement, de banaliser même des trottoirs, de réserver des trottoirs pour, etc. Bon, après, mais ça dépend
des communes. Ça ne peut pas se faire partout.
Voilà, ça ne peut pas se faire partout. Les conditions sont vraiment très, très spécifiques à chaque commune. Et franchement, peut-être aussi que, tout bêtement, la NATEP n'est pas connue des communes pour ce type d'action. Donc on ne le fait pas tout simplement parce qu'on ne nous a pas sollicité pour ça, quoi.
Voilà, mais bon, je vois que c'est des projets qui se mettent en place de plus en plus quand même. La sécurité, ça devient une priorité.
Quand on a son gamin qui risque d'y passer. Je prends, hélas, comme exemple, auprès des élèves, pour justifier un peu notre intervention, je parle de l'accident de Beaune.
Ah oui.
Eh oui, 44 élèves, hein, qui sont, enfin 44 enfants qui sont décédés il y a 39 ans, en 82, hein, 53 victimes, je crois qu'il y a eu 14 rescapés. C'était le plus grave accident connu, qui a eu lieu en France à l'époque, il n'y en a pas eu d'ailleurs depuis. Et c'est cet accident-là, je leur explique que c'est cet accident-là qui, sur le long terme, et le long terme législatif, c'est toujours un peu long, a amené les cars, enfin il y a eu un décret qui a été dit en 2005 je crois, décision 96 et ça a été mis en application en 2005, d'équiper les cars en ceinture de sécurité. Parce qu'avant il n'y en avait pas, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, donc il a été laissé, et de 1996, certes c'est quoi, c'est 14 ans après, mais il y a tout un processus d'enquête sur l'accident, des causes, etc. Et tout un rapport qui a dû être fait. Ça a pris du temps, mais ça a amené les autorités à décider que les cars seraient tous équipés de ceintures de sécurité. Alors peut-être qu'un jour, ça sera dans les bus, dans les trains, pourquoi pas, hein, ça pourrait être utile. Et je leur dis même d'ailleurs aux élèves qu'à cause de cet accident de Beaune, donc je leur dis, c'est Crépy-en-Valois, hein. C'est à côté. Hein, et ça a été généralisé sur toute la France. J'aurais dit d'ailleurs que, je dis aux élèves d'ailleurs, que depuis 2015-2016, non seulement c'est obligatoire, mais ça entraîne la possibilité d'un PV de 90 euros. Et j'ai vu, circulant dans les collèges, qu'il y a déjà des descentes, c'est ce que je leur explique, hein, des descentes de gendarmerie qui vérifient le fait que les élèves, c'est-à-dire le PV, c'est pas le chauffeur qui l'a, ce sont les élèves.
Ouais. S'ils mettent pas leur ceinture, c'est
ça. S'ils mettent pas leur ceinture, ils ont un PV. Ouais. Et il y a eu des PV tombés. J'en ai vu, moi, c'était du côté de Lassigny, il y en a eu aussi, à, je crois, à Nanteuil, à Crépy, où des élèves sont repartis avec un PV. Ouais. Voilà. C'est pas n'importe quoi, quoi.
Hervé, conclusion ?
Moi, j'avais une petite question. Est-ce que quand vous êtes devant un collège, est-ce que vous pouvez constater que l'écart ne s'arrête pas au bon endroit, choses comme ça ? Est-ce que vous pouvez intervenir auprès des communes, par exemple, pour leur dire, ben voilà, là, il y a quelque chose à améliorer, peut-être, dans la façon dont arrive le quart, ou choses comme ça ?
Alors, généralement, on ne le fait pas directement. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des gens qui sont mandatés par la région. Et on leur dit, parce qu'ils s'occupent de la gestion des transports scolaires, là, ça peut poser problème, vu la structure. Et le conseil régional, dans ce cas-là, intervient auprès des mairies et auprès des transporteurs, parce que c'est pas évident, c'est assez technique, on peut difficilement, nous, dire, le car doit s'arrêter à tel endroit, plutôt qu'à tel autre, ça dépend du circuit du car, s'il doit aller, venir, etc. Ouais, ouais. Enfin, il y a des tas d'éléments, là, de structure, qui fait que on peut signaler qu'il y a problème, mais dans ce cas-là, on préfère le donner à un référent, genre régional, qui a peut-être aussi un petit peu plus de poids que nous, parce que nous, si en tant qu'association, on dit, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, bon, on nous écoutera gentiment. Il n'y aura peut-être rien de fait derrière, quoi. Alors que là, il y a plus moyen de pression.
Voilà, donc l'émission va se terminer. Hein. Malheureusement, ça passe très vite. Hubert, une conclusion ?
Une conclusion, disons simplement que certes, moi, je fais ça sur 19 collèges de l'Oise, un tiers du département de l'Oise, ok. Mais on est trois dans l'Oise. Mais dans la région, dans chaque département, il y en a qui font le même travail que moi. Et dans chaque région, il y a le même nombre de... Enfin, il y a aussi des personnes qui font ce travail-là. Et en France, à mon avis, on ne doit pas être loin de 200 personnes qui font le même boulot que moi, quoi. Hein, donc, il n'y a rien d'exceptionnel. L'action de l'ANATEP, ici, dans le coin, c'est aussi une action de l'ANATEP qui a lieu dans le département, qui a lieu dans la région, qui a lieu dans toute la France.
Voilà. On rappelle, donc, il y a un site, hein, un site internet, hein, pour prendre des renseignements, pour avoir plus d'infos sur ce que vous faites. Hein.
Voilà, renseignez-vous, hein, parce que là, on n'a certainement pas tout dit. Donc, regardez, le site, c'est pas difficile, c'est ANATEP, donc ANATEP.fr, et vous aurez tous les renseignements nécessaires sans problème. Et puis, venez nous rejoindre, ce serait sympa.
Merci Hubert Minceau.
De rien, merci de nous avoir invités. Pour ça, c'est très bien d'avoir fait une émission là-dessus. J'en suis très content et je vous en remercie beaucoup.
Merci Hervé.
Eh bien, merci Hubert.
Merci Luc à la technique. Merci aussi. Hein. Voilà. Donc, rediffusion de l'émission à partir de dimanche à 16h et le mardi à 10h. Et après, en podcast. Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
Au revoir.
C'était une émission de la rédaction de RVM.